Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Et ce midi, on zoome sur les saveurs algériennes, une cuisine qui reste étonnamment méconnue en France, peut-être victime d'une réputation trop riche ou du fait de l'histoire compliquée entre les deux pays. En tout cas, une cuisine de métissage aux accents multiples, berbères, sahariens, arabes, kabyles, ottomans ou même français, aussi diverses que le pays compte de régions, une cuisine généreuse et réconfortante, en un mot, méditerranéenne. Et comme c'est essentiellement encore une cuisine portée par les femmes, il se trouve qu'elles sont trois avec nous aujourd'hui. Hanan Abdelli, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à vous. Vous êtes chef du restaurant traiteur Mamanissa, qui est à Paris, et l'autrice, avec votre mère Anissa, d'un livre qui n'est pas seulement un livre de recettes, mais bien plus, une plongée dans la culture algérienne à travers ses recettes, mais aussi des interviews avec des personnalités qui témoignent de ce que représente pour elle la cuisine algérienne. Ce livre a pour titre « Goût d'Algérie » bien entendu au pluriel et il a paru en octobre 2023 aux éditions Mango. Farah Karam est avec nous. Bonjour Farah.
Bonjour Caroline.
Vous êtes journaliste avec une appétence particulière pour tout ce qui touche à l'alimentation nord-africaine et à ses mythologies. Vous êtes l'autrice en 2023 d'un livre sur le pain, parce que le pain est très important dans les cuisines algériennes et nous allons le voir. Vous travaillez actuellement sur un deuxième livre à partir de récits familiaux, de recettes, de paroles de chercheurs également. Et puis avec nous également un nom phare de la culture franco-algérienne, Nadia Kassi. Bonjour à vous.
Bonjour.
Actrice sur les deux rives de la Méditerranée, de Merzak Alouache à Bertrand Tavernier, de Nadir Moknesh et Mounia Medour à Jean-Pierre Sinapi. Vous êtes également l'autrice, Nadia Kassi, de deux récits et, si je ne m'abuse, d'une pièce de théâtre. Vous, Nadia Kassi, vous êtes arrivée en France à l'âge de 23 ans. C'est dire que vous avez passé les 20 premières années de votre vie en Algérie. Donc, votre rapport à la cuisine algérienne est-il un rapport, disons, affectif, familial, presque nostalgique, j'ai envie de dire.
C'est totalement ça. Non seulement affectif, mais il y a aussi beaucoup, toutes les saveurs qui vous renvoient effectivement à des moments importants de votre vie, aux grands préparatifs de repas ou à la complicité dans cette cuisine avec tout le monde, tous les membres de la famille ou plus. Et on a un peu
Ah, je crois qu'on vous a perdu. Effectivement, vous êtes à distance. Vous alliez dire que vous avez un peu refoulé et que c'était revenu. Peut-être nous allons nous tourner vers nos deux invités ici avec nous en studio, Farah Karam et Hanan Abdelli, pour vous demander à toutes les deux aussi quel est votre rapport à la cuisine algérienne. Est-ce que c'est un rapport affectif, un rapport familial? Peut-être pas complètement refoulé, on verra. Hanan Abdelli.
Oui, moi, effectivement, c'est la cuisine qui a permis à ma famille de garder le lien avec l'Algérie. Mes parents sont arrivés en France à la fin des années 80, de manière un peu précipitée, puisque c'était pour sauver l'une de mes sœurs qui était très malade et qui ne pouvait être soignée qu'en France. Ils ont tout abandonné du jour au lendemain. Et quand ils sont arrivés en France, leur souhait, leur objectif premier, évidemment, était de sauver leur enfant. Mais le second était aussi que l'on s'intègre, que leurs enfants puissent apprendre le français, qu'ils puissent s'intégrer au mieux, qu'ils puissent rejoindre les écoles et qu'il n'y ait pas de difficulté à vivre en France. Mon père a fait une reconversion professionnelle, il est devenu enseignant. Il voulait absolument qu'on réussisse à l'école, qu'on étudie, qu'on lise énormément avec mes frères et sœurs. À la maison, on était obligé de parler en français. C'est-à-dire que même si nos parents nous parlaient en arabe, on était obligé de répondre en français pour continuer toujours de ce processus d'intégration. En revanche, il y a une chose qui est restée dans ma famille, c'était la cuisine. Maman continuait à nous faire des plats d'Algérie pour nos anniversaires, pour fêter n'importe quoi. Elle nous cuisinait algérien et on est cinq enfants et à tour de rôle, elle nous préparait les plats qu'on aimait. Et la cuisine est vraiment restée notre pont avec notre passé, avec l'Algérie. Donc c'est à la fois tous mes souvenirs d'enfance, mais c'est aussi tous les événements qui ont pu nous réunir en France, tous les événements qui ont pu nous faire penser à notre pays d'origine. Donc pour moi, c'est très important. Et puis là, aujourd'hui, avec la quarantaine, bon, il y a tout le projet Mamanissa, etc., dont on va parler, mais cette cuisine a pris un rôle très important dans ma vie.
Farah Kerem.
Je rejoins Anan dans ce lien avec la transmission, le lien avec le pays d'origine et ce que ça représente. En revanche, moi, mon rapport a été un peu plus conflictuel avec cette cuisine-là, parce que je suis née à Paris de deux parents qui sont algériens, ma mère d'Alger, mon père de Kabylie. Donc c'est aussi deux héritages culinaires qui sont assez différents, même si très liés. Et finalement, j'ai longtemps rejeté ces cuisines-là parce que j'avais envie d'être dans une assimilation totale à la culture française, et pour moi c'était des cuisines du trop. Elles étaient trop prononcées, trop sucrées, trop odorantes, trop lourdes, et c'était vraiment littéralement, je pense que c'est une métaphore totale de l'héritage parfois trop lourd. Et c'est honnêtement, il y a eu un changement à l'âge adulte. Donc j'ai 33 ans aujourd'hui, c'est depuis, je dirais, 5 ans que j'ai reconnecté avec ces cuisines-là, et ça coïncide aussi avec un retour au pays. J'y suis retournée après des années de rupture, et aujourd'hui pour moi, la cuisine algérienne n'est pas qu'une cuisine du quotidien, c'est une cuisine de fête, et c'est une cuisine qu'il faut honorer, parce que par sa puissance.
Hanan Abdelli, vous distinguez justement dans la préface de votre ouvrage « Goût d'Algérie avec votre mère », vous distinguez entre deux sortes de cuisines, précisément la cuisine de fête, plutôt viande, hein, et la cuisine du quotidien qui, elle, est plus frugale, pleine de légumes.
Tout à fait, tout à fait. Cette cuisine, il y a la cuisine de fête, effectivement, qui, comme toutes les cuisines, je dirais, est grasse, elle est riche,
elle est trop, disait Farah.
C'est exactement ça. Je veux dire, à Noël, en France, pendant les fêtes, etc., les plats qu'on mange sont particulièrement riches. On se met tous en détox et à la diète après les fêtes. Eh bien, la cuisine algérienne n'échappe pas à la règle. Et souvent, quand les gens découvrent la cuisine algérienne, c'est que soit c'est pendant les fêtes, soit ils sont reçus en tant qu'invités, et dans la culture algérienne, l'hospitalité tient une place centrale. Absolument. Quand on a un invité, c'est une fête. On va l'honorer des plats les plus festifs. Donc ça va être les plats les plus riches. Et les gens souvent découvrent la cuisine algérienne par ce biais, et ils peuvent garder en tête, évidemment, cette image de cuisine riche, alors que tous les jours, les Algériens mangent pas comme ça, évidemment, et c'est normal. Déjà, on mange pas de la viande tous les jours. C'est une cuisine qui est très végétale, c'est un régime méditerranéen. Mmh. C'est beaucoup de céréales, des légumes, de l'huile d'olive. Bon, en tout cas, c'est comme ça que j'ai grandi. C'est une cuisine, oui, la cuisine de tous les jours. C'est une cuisine qu'on va pas présenter à des invités, bien évidemment. Mais c'est une cuisine pour moi qui est saine et qui reflète vraiment le régime méditerranéen. Et c'est ce que je voulais faire découvrir.
Farah Kerem.
Je trouve dans ce que tu évoques, ça met en lumière la question des rituels. Et c'est une cuisine, je trouve, rituelique. C'est-à-dire que on déroule un repas, qu'il soit frugal, que ce soit un frishti ou une grande tablée, selon des règles qui sont finalement assez ancestrales et inconscientes. Et c'est une cuisine de l'opulence, mais extrêmement digeste finalement, qui est et en ça qui est éminemment actuelle et vers laquelle on devrait et on gagnerait, je crois, beaucoup en France à se tourner. Donc du végétal, de la cueillette, de la conservation, des méthodes douces de cuisson.
Exactement, exactement. Typiquement sur les méthodes de conservation, dans le sud de l'Algérie ou dans les régions enclavées, on a depuis longtemps développé la conservation par le vinaigre, la conservation dans l'huile d'olive, typiquement pour les tomates, les poivrons, la fermentation. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde toute la littérature sur la cuisine santé, etc., on retrouve tous ces éléments, mais qui remontent finalement, en Algérie en tout cas, à plusieurs siècles.
Hein. Avec les principes du régime méditerranéen. Exactement. Ce qui fait que chez Mamanissa, le restaurant dont vous vous occupez, qui fait aussi le traiteur, Hanan Abdelli, on mange de la cuisine traditionnelle algérienne, mais revisitée et allégée, et on y reviendra tout à l'heure, bien entendu. On a retrouvé Nadia Cassi. Nadia Cassi, vous entendez ce que disent nos invités à propos de l'opulence, de la richesse, mais aussi de la santé de cette cuisine algérienne que vous avez apprise à cuisiner en autodidacte avec un livre qui manifestement est un livre référence pour beaucoup d'Algériens et d'Algériennes, qui est le livre de Fatima Zohra Bouayed, édité en 1976, La cuisine algérienne. C'est avec ce livre-là que vous avez appris à cuisiner?
C'est avec ce livre-là que j'ai appris à cuisiner, entre autres. C'est avec ce livre-là que je suis partie. Je l'ai emmené dans mes bagages d'Algérie. Mais c'est aussi avec des échanges entre amis qui n'étaient pas de la même région. On était de régions différentes. Et on échangeait nos recettes, nos informations. Et surtout, en fait, tout à l'heure, on a été coupé. Donc, apparemment, vous ne m'aviez pas comprise. Je ne disais pas que j'avais refoulé. Bien au contraire, nous, quand on est arrivé en Algérie, on est arrivé avec ce qui nous reliait encore, c'était aussi la nourriture. Et la nourriture était très importante pour nous. Et on était très contents de refaire nos recettes dans nos cuisines et de se regrouper tous ensemble, les personnes qui étaient parties à peu près à la même époque, pour recréer quelque chose aussi en lien avec... voilà. Et moi, je me suis pas posé de questions sur la façon dont la cuisine algérienne m'a accompagnée. Elle m'a accompagnée naturellement durant toutes ces décennies. Elle a aussi, là par exemple, c'est le printemps. Je suis très heureuse de retrouver de ressortir toutes mes recettes de printemps avec les artichauts, les cardes, les petits pois, les fèves, qui sont vraiment très beaux. C'est ce légume qu'on voit sur les étalages, qui sont très beaux et qui vraiment nous poussent à aller sur les recettes de printemps. Et c'est vrai que c'est des... ça a toujours suivi les saisons. Y a ça aussi qui est important. Après, il y a des recettes que je sais que je retrouverai pas, que ma mère faisait, j'arrive pas à les retrouver. Mais en même temps, il y a d'autres recettes. La cuisine algérienne est très riche et on s'en rend compte. Moi, je m'en rends compte. Je découvre encore des recettes aujourd'hui que je connaissais pas du sud de l'Algérie, des souches, des choses comme ça, à base de pois chiches, de coriandre, voilà quoi.
Hanad Abdelli, à l'instant, Nadia Cassi parlait de la différence selon les régions. C'est vrai que le pays est très grand et que, évidemment, c'est un terroir qui est d'une grande diversité. Est-ce que vous pourriez rapidement nous dresser le portrait du nord au sud, de l'est à l'ouest?
Oui.
De la montagne à la mer.
Effectivement, l'Algérie est un pays continent immense, avec à la fois un nord méditerranéen, on a 1200 km de côte, avec évidemment un climat méditerranéen. Ce que je dis toujours, c'est qu'une cuisine reflète toujours la géographie et l'histoire d'un pays. Toujours. La géographie, parce qu'on a le climat, les produits disponibles. Donc en Algérie, cette empreinte géographique, on va plus la sentir du nord vers le sud. Un nord méditerranéen, avec donc un climat méditerranéen, des produits méditerranéens dans le nord, du poisson, etc. Et le désert du Sahara dans le sud. Avec là des produits évidemment qui seront différents, une disponibilité de produits qui sera pas la même. Donc dans le sud, on va retrouver les dattes, on va retrouver évidemment beaucoup moins de maraîchage, on va retrouver beaucoup de céréales. Et on va trouver des techniques qui ont poussé les populations à développer des techniques culinaires différentes. C'est-à-dire que dans le sud, on va développer, il y a la culture nomade, par exemple la culture du méchoui, on va avoir la culture de la conservation des aliments dans l'huile, dans le vinaigre, dans le sel pour la viande séchée par exemple. On n'est pas du tout sur les mêmes produits ni techniques culinaires que dans le nord. Après, donc ça, on est plus sur la géographie. Pareil, quand on va en Kabylie, par exemple, ou dans les zones qui sont montagneuses, on va avoir des produits différents. Les hivers sont froids. On va aussi conserver beaucoup d'aliments. On va manger des légumes secs, des fruits secs, beaucoup plus que dans les zones où, évidemment, on va trouver des fruits et des légumes toute l'année. Et puis après, il y a le côté histoire. Le côté historique de l'Algérie, on va plus le trouver quand on va se balader du nord, de l'ouest vers l'est. Donc d'abord, il y a la culture berbère, qui était, on va dire, les premiers occupants d'Algérie. De toute religion, c'est-à-dire que des berbères, on en avait sans religion, des berbères juifs, des berbères chrétiens, et puis des berbères musulmans, parce qu'il y a eu l'islamisation de l'Algérie qui est arrivée par les Arabes. Là, après, on a l'influence des Andalous, par l'Ouest, qui sont arrivés. Et là, on va retrouver beaucoup de similitudes entre l'Ouest de l'Algérie et, par exemple, le Maroc. Et on va avoir l'héritage ottoman qui va arriver... après la chute de Grenade, donc il y a la chute de Grenade, les Andalous, et après il y a les Ottomans qui vont arriver avant les Français. Et là, Caroline, et on va avoir des cuisines différentes, des épices différentes.
Après, c'est pour ça que c'est très difficile de parler d'une cuisine algérienne.
Ce sont des cuisines
algériennes. Mais malgré tout, on peut dresser quelques constantes, en particulier évidemment le couscous qui reste le plat national, même s'il y a énormément de façons de faire le couscous, comme le couscous traditionnel algérien ou le couscous amekful kabyle, qui est un couscous aux légumes, et le pain, Farah Kerram. Le pain a l'air d'être... un ingrédient indispensable de toute cuisine algérienne. Vous nous avez fait un livre sur le pain qui vous sert, dont vous vous servez en tous les cas quasi quotidiennement pour faire toutes sortes de pains. Par exemple, un pain qui est la kessra, qui est une sorte un peu plus galette que pain et que vous faites cuire, non pas dans le plat qui se mange, mais le plat qui sert à le cuire, qui est la casserole ou la poêle, qui est le tagine. Alors à vous de parler du pain, comme étant le blé. Le blé est un ingrédient indispensable.
Oui, le blé est un ingrédient indispensable en Algérie, mais dans toute l'Afrique du Nord aussi. Le blé dur, qui sert à faire toute une ribambelle de pain, dont la kessra. Je crois que, effectivement, Caroline, vous parliez du couscous, qui est l'emblème du plat berbère. Enfin, c'est le plat berbère amazigh par excellence. Le pain peut également être qualifié ainsi. Ce sont souvent des pains non levés qu'on retrouve, donc des pains de l'instantané, aussi des pains de fait de migration, des pains nomades, qui nécessitent assez peu d'ingrédients, donc du blé dur, de l'huile d'olive, de l'eau, du sel, un foyer, du feu. On peut le cuire sur ce plat tagine, donc c'est vraiment quelque chose de très instinctif, facile à déplacer. Et c'est absolument pas anodin, puisque ces pains aujourd'hui sont quand même menacés, entre guillemets, de disparition, dans le sens où il y a un avènement du pain blanc, directement issu de l'époque coloniale, qui met à mal ces savoirs ancestraux et ces techniques qui sont perpétrées en fait par les femmes. Et donc ces pains ne sont maintenant plus que dans l'intérieur des foyers, on les trouve dans le commerce, mais avec des ingrédients de moins bonne qualité, puisque l'huile d'olive aujourd'hui en Afrique du Nord, il faut le dire, est devenue une denrée de luxe. Donc c'est aussi pour ça que il est important, je crois, à sa petite échelle, de en fait faire ces recettes là, que ce soit dans un appartement parisien ou en plein Sahara.
C'est vrai. من وحش الحباب هاجوا فكاري وفرقهم طال علي كي نتفكرهم تشعل ناري وين راكم يا ولدي
Alger, par Lily Boniech, pour rendre hommage à ces saveurs algériennes qui est le sujet des bonnes choses ce midi avec nos trois invités. Je disais en introduction que c'était une cuisine méconnue, peut-être restée longtemps dans l'ombre des cuisines marocaines et tunisiennes. Et pourtant, en France, la communauté algérienne est extrêmement importante. Comment l'expliquer ? Est-ce que c'est parce que c'est une transmission qui se fait oralement ? Est-ce que c'est une cuisine de maison qui a peu de restaurants ? C'est vrai qu'il y a peu de restaurants, en fait. Anan Abdelli, Mama Nissa, c'est l'un des rares restaurants en France, en tous les cas à Paris, récent.
Quand j'ai voulu ouvrir Mama Nissa, j'avais regardé un petit peu ce qui existait. Il n'y avait pas beaucoup de restaurants algériens. Et il y a même parfois des restaurants algériens, mais qui ne l'affichent pas explicitement. Ils vont porter des noms différents. Ils vont même
dire saveur méditerranéenne, mais pas spécifiquement algérien.
Algérien. Je crois que c'est aussi sûrement lié à l'histoire compliquée entre les deux pays. J'en discutais avec Benjamin Stora, qu'on a interviewé dans le livre, et il me disait que il y avait une sorte de complexe aussi de la part des Algériens à dire cuisine algérienne, parce que pour eux c'est une cuisine de maison, c'est une cuisine qu'on n'a pas jugé digne de sortir de l'espace intime, personnel, alors qu'elle est extrêmement riche, savoureuse et qu'elle mérite d'être partagée au plus grand nombre.
Alors qu'est-ce qu'on mange chez Mama Nissa ?
Beaucoup de choses.
En ce moment, à la carte, qu'est-ce qu'on trouve ? Par exemple, on trouve des plats phares, on trouve la chachouka.
La chachouka, ça fait partie des plats phares, parce qu'on l'a proposé dès le départ et on a vu que ça marchait énormément, même si c'est un plat qui était déjà connu, je crois, en France et à Paris, la chachouka. On l'a fait au poivron, on a fait découvrir le couscous à Makfoul, comme vous citiez tout à l'heure, c'est le couscous kabyle, qui est très sain, qui est végétarien, même vegan. C'est cuisson vapeur, un trait d'huile d'olive. Et ça, on le fait. Et en fait, les légumes qu'on met dedans changent avec les saisons. Donc, ce couscous évolue toute l'année. Et puis, on fait découvrir des spécialités. En ce moment, par exemple, on fait découvrir le sud de l'Algérie, la spécialité de Boussahada, qui est le zviti. C'est de la galette écrasée dans un mortier, de la galette comme la kessla, voilà, dont parlait Farah, avec des tomates, des poivrons, plein d'épices. Et le fait d'écraser ça au mortier va faire que les saveurs vont se mélanger, vont faire ressortir tous les parfums.
Et c'est la recette que vous nous avez offerte pour la page des bonnes choses. Nous vous en remercions. Hein. Donc le zviti, plat traditionnel, emblématique de la cuisine algérienne, originaire de la région des Hauts Plateaux.
Exactement.
Préciser, puisque vous nous avez expliqué que chaque région, non seulement avait ses spécialités, bien entendu, mais même des couleurs de sauce.
Exactement.
Et des épices.
Exactement. Exactement. Il y a les couleurs rouges, la sauce rouge qu'on retrouve dans beaucoup de régions, mais surtout dans l'Est. Dans tout ce qui est algérois, ce sont des sauces blanches, parfumées à la cannelle. Et on va mettre des bâtons de cannelle qui vont infuser. On met pas la poudre pour pas les colorer. Et dans l'Ouest, on est plus sur des sauces plutôt jaunes, safranées.
Farah Kerram. À ce sujet, donc sauce rouge et sauce blanche. Donc bien sûr, quand on dit sauce blanche, comme Anan l'explique, c'est pas du tout une sauce avec de la crème. On n'est pas là-dessus. Mais c'est un bouillon qui permet de voir, en fait, l'entièreté du plat. Et Ouiza Gallès, qui est une anthropologue algérienne, m'expliquait il y a quelques mois que c'est vraiment lié au fait que la cuisine, par exemple, algéroise est une cuisine noble. Donc, qui est considérée comme blanche dans le sens où on reçoit quelqu'un, on fait un couscous, et ça permet une rejeta, et on peut voir en fait tous les ingrédients qui composent ce plat. À l'inverse, la sauce rouge, elle, va dissimuler des ingrédients qui sont potentiellement moins nobles, et donc ça va être quelque chose de moins élaboré. Bon, je dis ça, mais moi j'adore le couscous tunisien, tout rouge, et du sud algérien, mais voilà.
C'est ça.
Et puis aussi, il y a la kalantika oranaise, qui est une sorte de flan de pois chiche. Et la tikourbabine, symbole culinaire de l'identité kabyle, composée d'agneaux, de boulettes de semoule, de légumes de saison, etc., etc. Sans oublier, bien entendu, les desserts.
Ah oui.
Dans les desserts, il y a un ingrédient majeur qu'on retrouve en ce moment chez Mama Nissa, par exemple, mais qu'on retrouve également chez Maître Dattier. Bien entendu, je veux parler des dattes. Nous sommes au téléphone avec Sofiane Ziouche. Bonjour, Sofiane Ziouche. Maître Dattier, c'est vous. Vous êtes le directeur général de Maître Dattier, avec un laboratoire de 400 mètres carrés installé à Romainville. Et vous faites notamment de la datte algérienne, la fameuse déglette avec nour, produit typique du terroir algérien. Il faut juste préciser que l'Algérie, c'est le 3e producteur mondial de dattes et que le pays compte plus de 1000 variétés. Et pourtant, on ne parle que de la déglette nour. Comment se fait-il ?
Exactement. Alors la déglette nour, c'est la variété qui est produite massivement dans le pays. Il y a d'autres variétés, mais qui sont produites qui ont une productivité beaucoup plus réduite et qui ont aussi une fragilité, ce qui fait que malheureusement elles sont pas encore connues du grand public. Mais nous, on a pour but justement d'aller sourcer de nouvelles variétés. Donc on compte y aller en septembre, puisque la récolte se fait de octobre. Enfin, je commence en septembre jusqu'en décembre. Et l'idée, c'est de proposer d'autres variétés que la déglette nour. Mais c'est vrai que la déglette nour, c'est celle qui est connue principalement en Algérie.
Oui, et que la datte algérienne devient manifestement de plus en plus populaire chez les Algériens. Mes deux invités en face de moi opinent du chef, elles sont tout à fait d'accord. Vous la connaissez d'ailleurs, cette datte, non seulement de évidemment la déglette nour, mais pas seulement. Maître dattier est manifestement extrêmement populaire. Il se trouve que vous faites, Sofiane Ziouche, non seulement des dattes, mais vous sublimez les dattes, parce que ce sont des dattes sous toutes leurs formes, enrobées de chocolat, en caramel, en confiture, en sirop, on trouve toutes sortes de dattes, j'en ai d'ailleurs des boîtes, une boîte absolument sublime sous les yeux, et il serait trop long de détailler ce que vous faites. Donc vous la sublimez, la datte.
C'est ça. Ben, notre rôle exactement, c'est de sublimer la datte algérienne. Donc on la propose sous toutes ses formes, hein. Donc bien sûr au naturel, mais aussi en sirop, en confiture, en caramel, et comme vous avez dit aussi des dattes enrobées. Donc on utilise des ingrédients à faible teneur en sucre pour pas que ce soit écœurant, mais tout au contraire, c'est très raffiné et ça plaît énormément, ça change des pâtisseries, donc ça c'est un beau présent à offrir et les gens ça leur plaît et aujourd'hui on compte 7 points de vente. J'ai démarré
à Paris dans toute l'île de France.
Oui, on est en Île-de-France, donc on a 2 boutiques sur Paris. Une dans le 8e arrondissement, une autre dans le 11e. On est aussi à Vincennes et dans 4 centres commerciaux, au Paris Nord, Créteil-Soleil, Belle Épine et le centre commercial Quartz. Et nous avons aussi une boutique en ligne où on propose la livraison partout en France. Donc www.maitredattier.com, vous pouvez voir tous mes produits.
Je ris, mais effectivement, sur la page des bonnes choses, vous retrouverez évidemment toutes ces adresses et toutes ces références. Merci beaucoup, Sofiane Ziouche. Qu'est-ce que vous avez sous les yeux, là, Farah Kerram?
J'ai un Bradj qui vient de chez Mamanissa. Donc le Bradj, c'est l'une de mes pâtisseries préférées. Enfin, c'est entre une pâtisserie et une galette. C'est de la kesra, mais qui a du semen. Anan, tu me dis, parce que je ne connais pas votre recette.
Ouais, c'est du beurre.
Ouais. Du beurre.
Mais c'est fourré à la pâte de datte.
Exactement. Et ce sont, moi je les aime énormément. Au-delà du goût, c'est pour toute la symbolique qu'il y a derrière. En fait, c'est des galettes, des gâteaux qui célèbrent le printemps dans la tradition berbère. Donc voilà.
Donc voilà qui tombe très bien et qu'on trouve effectivement chez Mamanissa des galettes fourrées à la pâte de datte, à la cannelle, au clou de girofle, à la fleur d'oranger. Un véritable délice. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir participé à cette émission. Je rappelle le titre du livre de Hanan et Anissa Abdelli, Goût d'Algérie, avec les photos d'Aline Princet aux éditions Mango, des interviews de personnalités. On l'a entendu, notamment Benjamin Stora ou Rachid Arab. Merci beaucoup à Farah Kerram. Faire son pain, c'est le livre actuellement disponible aux éditions Ulmer. Le restaurant, bien sûr, Mamanissa, c'est à Paris dans le 2e et vous livrez dans toutes les villes de France. Et merci également à Nadia Cassi d'avoir participé à cette émission. Les bonnes choses s'écoutent aussi quand vous le voulez sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France. Avec Siam Boutata à la préparation aujourd'hui, Sam Basquia à la réalisation et Florent Bujon à la prise de son. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture.